Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine Lucarne. La bonne série rennaise se poursuit et c'est donc avec un sourire jusqu'aux oreilles qu'on vous accueille. Le Stade Rennais va très bien, il est dans les meilleurs clubs européens avec cette série assez incroyable. Donc on a des raisons d'être heureux et même si parfois on posera des questions qui peuvent paraître un peu pessimistes, nous sommes très optimistes comme le sont les gens autour de cette table, à commencer par Xavier Grimaud d'RMC. Salut Xavier.
Salut Vincent, pourquoi on sent l'ironie là, dans votre sommaire, dans votre présentation ?
Non, parce qu'on me reproche quelquefois d'être un peu négatif. Vous êtes positif. C'est la mode à deux entre vous et Thomas Rassouli. Pareil, hein, la surchemise en velours fait fureur. Alors, on vous entend beaucoup commenter les matchs, pas uniquement à Rennes, mais un peu partout dans le Grand Ouest pour RMC. Bientôt pour la télévision aussi avec la Coupe d'Europe qui s'approche. Hein.
Oui, il sera sur RMC Sport, abonnez-vous. Hein,
si c'est pas déjà fait. Non, mais... Ce sera bien pour le déplacement à Milan. Depuis qu'il est revenu d'Asie, il a son rond de serviette qui est posé ici sur la table de Pleine Lucarne. Thomas Rassouli, salut.
Salut Vincent, vous avez retrouvé votre voix ?
Un tout petit peu, c'est compliqué quand même. Le chaud est froid à mon âge. Ouais. Ça passe.
Puis encourager Ludovic Blas, ça doit vous prendre aussi un petit peu.
Ouais, de dire allez, vas-y Ludo. C'est un peu compliqué. C'est pour Stade Rennais Online que vous êtes là. Et puis nos amis de West France sont là également. Guillaume Lenné, spécialiste du mercato, c'est fini. Ça y est, les vacances démarrent pour Guillaume Lenné. Salut Guillaume.
Un grand soulagement que ce soit fini quand même.
C'est crispant. Et Laurent Frétinier, le patron de tous les sports, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce lundi. Salut Laurent, ça va ?
Bonjour Vincent, bah oui, ça va très bien. Moi je suis en pleine guérison, vous avez mon virus, donc c'est
très bien. De là à dire qu'on s'embrasse trop.
On ne s'est pas embrassé au stade samedi. Non,
ça c'est clair. Allez, le stade justement, on en parle maintenant. Voici le résumé de ce Rennes-Montpellier. Voilà, pas beaucoup d'ambiance, et même pas d'ambiance du tout, parce que la moitié d'une tribune était fermée. Mais ça démarre quand même pourtant très bien. 2 minutes de jeu, Doué qui sert Terrier, qui va profiter du rebond du ballon sur le poteau. Il l'a suivi, après un petit moment d'arrêt, l'arbitre autorise, il n'y a absolument pas hors-jeu, regardez-le. Voilà, Doué, Terrier, le ballon tape sur le poteau droit, et Terrier a suivi, et Rennes mène 1-0, un quart d'heure de jeu. Tête de théâtre qui a décidément bien du mal à cadrer ses têtes alors qu'il est souvent très bien à la retombée du ballon. Et puis, bah, pas grand-chose du côté de Montpellier, cette tête de Mincarelli qui va arriver facilement jusqu'au gardien rennais. Juste avant la mi-temps, encore une action de Martin Terrier, bien servi par Kalimuendo. Pas de pénalty sur cette action. Et puis, une belle parade de Lecomte. Ça fait 1-0 pour Rennes à la mi-temps. Dès le début, 45 secondes en début de deuxième mi-temps. Ballon de Bourigeaud pour Guéladoué. Faute débile du défenseur de Montpellier. Derrière, pénalty indiscutable. Très bien transformé par Kalimuendo. Rennes mène 2-0 et personne ne s'inquiète, évidemment. On se dit que Rennes a la main sur ce match. Alors, il y a quand même cette frappe de Savagnier qui va mettre Mandanda à contribution. Mais c'est plutôt pas mal côté rennais et on n'a pas beaucoup d'inquiétude. Il y a quand même cette action avec Tanguy Koulibaly et ce sauvetage d'Omari, parce que la défense avait été prise un petit peu de façon délicate. Les Rennais ont des contres. Regardez, théâtre pour Kalimuendo. Derrière, Bourigeaud. Il faut la cuisse de Julien pour dévier un ballon qui allait dans le but. Et puis, on croit au troisième but sur cette action. Guéladoué et Guéry en renard qui marque au fond. D'ailleurs, personne ne discute côté Montpellierin, personne ne. Mais sauf que la VAR rappelle l'arbitre. Et oui, au départ de l'action, le retour était trop lent pour Bourigeaud. Et là, ça va aller d'un coup, toute la lumière va s'éteindre pour le Stade Rennais. Regardez cette série de contres favorables quand même au Montpellierin. Cette frappe de Savagnier, bien placée, 2-1. Et comme souvent dans ces cas-là, Le troisième but est le plus important. Et Rennes commence à trembler. Rennes va encore plus trembler quelques minutes plus tard avec ce but, cette fois marqué par Caramo. Oui, mais il est hors-jeu. Et donc, finalement, on en reste là. Dernière action vraiment notable, ce tir de Blas accompagné en corner par Lecomte. Mais voilà, Rennes s'impose, mais s'impose difficilement face à Montpellier. Regardez bien le classement, on va y revenir plusieurs fois dans cette émission. Rennes occupe la 9e place, n'est plus qu'à 2 points de la 7e place, qui éventuellement pourrait être européenne, une place occupée par Reims. Alors, oui, je suis quelquefois un peu pessimiste, mais est-ce que on peut parler quelquefois de défaites inquiétantes? Et est-ce que celle-là fait partie des défaites inquiétantes?
Je trouve un peu dur, moi. Le public veut répondre, a priori.
Oui, pardon. Oui, le public, lui, a suivi, pas vous, hein, Tam, vous êtes sympa. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire inquiétante?
Non, je trouve un peu dur, moi. Inquiétant, je trouve ça un petit peu fort comme mot. C'est pas une victoire extrêmement, totalement satisfaisante, parce qu'on a vu une équipe qui était assez inconstante au sein de deux mêmes mi-temps. Donc, ils ont eu plusieurs trous d'air sur 90 minutes. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu, pas rassurant. Mais de là à dire que la victoire est inquiétante,
d'accord,
ça me semble un peu
inquiétant. Je disais ça parce que Montpellier était une équipe privée de tous ses attaquants et dans une très mauvaise dynamique. Or, jusqu'au bout, quand même, les uns comme les autres, on a un peu serré les fesses.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, une victoire inquiétante, ça aurait pu être celle à Clermont, éventuellement avant Noël, qui était vraiment arrachée, où ils n'avaient pas très bien joué. Et, voilà, là, ce n'est pas une victoire inquiétante. Ils sont, d'accord, quand même sur une série qui est très bonne. Après, il y a des gros trous d'air, c'est très cyclique. Mais qui maîtrise totalement ces matchs en Ligue 1, si vous regardez les équipes au-dessus, à part même Paris, ne les maîtrise pas vraiment. Peut-être que Brest les maîtrise à peu près, Nice aussi les maîtrise à peu près. C'était un match assez équilibré hier, par exemple. Donc non, ils sont sur une dynamique. Ils sont sur la voie de la guérison, quand même bien le dire Julien Stéphan, mais on ne va pas commencer à s'inquiéter.
Okay.
Alors que là, pour l'instant, c'est une métamorphose quand même depuis le début de l'année.
Voilà.
Surtout que c'est le genre de match typiquement qu'il y a quelques temps, on se rappelle du Havre où ils menaient 2-0.
Les regrets, c'est le Havre.
Bah, les regrets, c'est le Havre. Et là, ça aurait pu être Montpellier. Finalement, ce n'est pas si inquiétant que ça. Ça prouve que c'est la voie de la guérison, mais il y a quand même quand même une grande part de guérison. Cette équipe est plus solide globalement. Évidemment, il y a des trous d'air, de l'inconstance, mais ça va quand même beaucoup mieux quand même.
3 points mérités au final, Guillaume.
Il faut faire tourner le compteur, surtout. Voilà, encore une fois, vu d'où revient le Stade Rennais, vu ce qu'on débattait encore début janvier et puis même fin décembre, les victoires sont là. Il fallait que ça reparte déjà par des victoires, même si c'est très inabouti, effectivement. Tous les matchs depuis le mois de janvier, à part Nice, moi, qui me semble être le match un peu le plus complet que le Stade Rennais ait réalisé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Personne ne dit que cette année va finir dans le top 3 ou dans le top 4. Voilà. Non. En tout cas, il grappille gentiment. Et la Ligue 1 étant ce qu'elle est, c'est-à-dire faible globalement, avec aucune équipe qui maîtrise. Regardez Lens, par exemple, hier, je pense à Lens qui est 6e, qui est sur une très bonne série aussi. Tout le monde dit super, c'est solide Lens. Lens, ils sont sauvés comment à Nantes par Brice Samba, qui fait des parades incroyables pour maintenir à flot Lens. Donc aujourd'hui, voilà, toutes les équipes sont un petit peu...
Alors justement, quels sont les arguments que vous avez ou les explications que vous avez les uns et les autres pour expliquer l'inconstance du Stade Rennais, déjà remarquée à Lyon il y a quelques jours, revérifiée contre Montpellier. Pourquoi tout d'un coup, il y a des très belles phases et par moments, plus rien du tout?
Les explications, je ne sais pas si on les a. On a essayé d'en avancer une, je pense, à peu près communément. On se disait que c'était peut-être l'aspect physique. On était plusieurs en tribune à trouver cette équipe assez fatiguée, je ne sais pas, ou qui manquait vachement de rythme en seconde période notamment. Après, Julien Stéphan, il a vite écarté ça quand on lui a posé la question après la rencontre.
Vaut mieux,
d'ailleurs. Après, de là, oui, vaut mieux en début de bloc, parce qu'ils ont un sacré enchaînement qui les attend. Mais après, honnêtement, non, pas tellement d'explications.
Non, après, c'est une équipe qui a repris énormément de confiance, mais qui n'a pas forcément peut-être les caractéristiques techniques aussi pour totalement maîtriser le ballon, comme pouvait le faire l'équipe de Genesio sous la belle époque, hein, quand elle tournait bien, où elle était capable de confisquer un peu plus le ballon. Il y a cette capacité qui est naturelle à reculer quand on mène et à reculer sous pression parce que les anciens démons, je pense qu'ils sont encore un petit peu là. Et puis aussi, je crois qu'on va y revenir, les entrants qui ne sont pas forcément impactants et qui n'aident pas aussi à donner de la confiance pour remonter le bloc et tout ça. Donc voilà, c'est un ensemble, il faut qu'ils continuent de grappiller match après match une confiance avec un mois de février qui va être assez délirant.
Oui, vous parliez du passé, Xavier. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme encore de la première partie de saison? Est-ce qu'il n'est pas encore un peu prégnant, quoi. Est-ce qu'il
en
est...
défense, il y a des symptômes encore voyants. Puis c'est vrai que ça se met à reculer par moment. Ça a reculé dès la fin de la première mi-temps. C'était pas. On voyait déjà des prémices de ce qui allait se passer ensuite. Après, c'est pas non plus très très grave, mais c'est un match peut pas être à 100% tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a ça, sans doute cette défense psychologiquement un peu plus fragile. Au milieu, le fait a peut-être été moins rayonnant, a perdu des ballons. Voilà, c'est certaines des explications que peut-être.
Alors quelquefois, on s'est dit, ça joue peut-être un peu trop facile.
Facile, je sais pas. En tout cas, oui, sur des séquences de jeu précises, des actions, notamment quand ils sont sous pression, toujours. Hein, depuis le début de saison, on remarque ça. Dès que l'équipe est sous pression, ça manque un peu d'agressivité. Regardez le but que vous prenez. C'est un problème d'agressivité.
On a des images du but. On va le revoir.
Si Montpellier a tous les contres favorables. Quasiment sur cette action-là. Voilà, alors au début, effectivement, c'est le fait qu'il perd le ballon. Derrière, ça regarde. Regardez, là, c'est pas assez agressif. Là, c'est pareil. Santa Maria, il y va pas assez. Il regarde. Donc là, voilà,
c'est un défaut d'agressivité, parce que ce but, on a l'impression qu'on l'a vu 3-4 fois, dans des circonstances un petit peu différentes, pas forcément au même endroit, mais cet enchaînement de frappes adverses sans qu'il y ait un pied rennais qui se mette forcément. Je pense que c'est pas tout à fait le même but, mais par exemple le but qu'ils prennent de la Lacazette à Lyon, où la Lacazette a le temps de gagner deux duels avant de battre Mandanda. Il y a un défaut d'agressivité que sont censés, selon Julien Stéphan, apporter Matusiwa et Seydou, qui évoluent plus dans ce registre, mais ils n'étaient pas assez sur le terrain hier, en tout cas.
Ouais, Xavier.
Non, je...
Vous abondez.
J'abonde.
D'accord. Je crois que vous vignez la main en disant « Mais non, je ne suis pas du tout d'accord. » Non, vous êtes tout à fait d'accord. Il y a aussi eu des belles séquences. Je voudrais vous en montrer deux. Parce que ne faut pas non plus voir que le verre à moitié vide. Il y a le verre à moitié plein. Il y a eu... On revoit des choses. Celle-là, regardez, moi, je la trouve très belle.
En fait, là, on pointe ce qui n'a pas forcément été. Mais il y a quand même une satisfaction. C'est qu'au départ des actions, moi, j'ai trouvé ce Stade Rennais vachement plus en confiance. Il y a à la construction, mais c'est à partir de là, à peu près, dans les 20 derniers mètres, que ça devient compliqué, que dans la dernière passe, ça a rarement été ça. Donc, à part sur cette action, évidemment. Mais
là, ça n'a pas été non plus la conclusion.
Non, mais c'est le dernier tir. Mais sinon, déjà arrivé jusqu'à la dernière passe. Sinon, ils ont eu beaucoup de mal à arriver à être juste dans la dernière passe avant le tireur. Mais sinon, dans la construction, il y a vraiment des motifs.
Le premier quart d'heure est vraiment très bon en termes de contenu. Alors, effectivement, sur la fin, c'est un peu moins bon. Mais dans toute la phase préparatoire, le premier quart d'heure, il rappelle quand même vraiment, pour le coup, les belles heures, ce que vous avez pu voir, surtout vous, un peu par le passé.
Oui.
C'était vraiment intéressant.
Et de la profondeur, une capacité à se projeter assez vite et de la justesse technique. Alors, sauf peut-être un ou deux, il aurait fallu un petit peu plus pour tuer justement ce match à 3-0. Mais bon, quand même, c'est quand même pas mal.
Et ce déficit physique qu'on a un peu tous senti, est-ce qu'il serait pas lié justement à un contre-coup du travail physique du mois de janvier sur lequel Julien Stéphan a extrêmement appuyé pour que justement ça se passe bien dans le bloc.
J'ai eu le sentiment, moi, que c'était surtout vrai sur les deux milieux de terrain, le fait et Santa Maria. Alors c'est aussi peut-être le contre-coup, on va dire, du système, c'est-à-dire que quand vous jouez avec deux milieux de terrain axiaux, forcément vous ne jouez pas avec trois, donc ça veut dire que les deux ils courent beaucoup, ça veut dire qu'on demande beaucoup d'efforts de contre-efforts à la fois avec et sans ballon aux deux joueurs du milieu de terrain. Et c'est vrai que sur la fin de match, j'ai trouvé les deux vraiment, vraiment extrêmement usés. Voilà. Il va falloir que ça tourne un peu quand même.
Heureusement, il y a eu des recrues.
Non, mais justement, sur les recrues, ça interroge un petit peu. Ça fait deux fois que Matusiwa entre en jeu. À chaque fois qu'il entre en jeu, c'est pour un passage en 4-4-3. Un 4-3-3, pardon. Alors qu'il aurait peut-être été bienvenu sur ce match-là qu'il entre un petit peu avant. On a vu, Guillaume l'a bien dit, on a vu par exemple Santa Maria un petit peu couler physiquement assez rapidement. Il aurait pu le faire rentrer comme ça dans un milieu à deux.
Il est rentré tard, Matusiwa. Ouais. J'étais un peu surpris quand même de ça.
L'inconstance dont on parle, est-ce qu'elle peut s'expliquer aussi, et vous en avez déjà touché un mot, par le fait que les entrants n'ont rien apporté?
Oui. Non, ils sont pas impactants. Alors,
dans la il y a un décalage entre eux. Oui. On a l'impression qu'on a une équipe de titulaires avec un banc, et que ce qu'il y avait il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, où les remplaçants étaient à peu près au niveau des titulaires, c'est plus tout à fait le cas.
S'il y a un gros match aujourd'hui qu'on doit faire l'équipe, je ne pense pas qu'on se fasse des nœuds au cerveau pour coucher le 11. Après, peut-être un ou deux postes près, éventuellement Seydou qui est peut-être défensivement meilleur que Guélado. Encore, il va falloir qu'il s'acclimate à Rennes, on ne l'a pas encore vu. Non, les entrants n'ont pas été bons. Alors, Yildirim, il met beaucoup de bonne volonté, mais bon, il en fait des caisses aussi dans ses réactions à chaque contact. Et puis techniquement, on voit bien qu'il est encore à faire. Ludovic Blas, il a la tête à l'envers, Ludovic Blas. On sait que c'est un bon joueur. Moi, j'ai des grosses réserves sur lui. Non, mais c'est un bon joueur, techniquement, on le sait, on l'a vu, il est capable de briller. Moi, j'ai des gros doutes sur la capacité qu'il ait envie d'être un bon footballeur de club constant. Mais il faut clairement lui laver le cerveau pour qu'il fasse une bonne entrée. Et sinon, on fait rentrer qui ? Ibrahim Salah aussi, il a des lacunes. Ça va être, dans ce mois de février aussi, qui est très chargé, où il y a beaucoup, beaucoup de matchs, ça va être aussi un des points qui va...
Gouiri, ça faisait quand même un gros mois. Il ne faut quand même pas oublier que ça faisait un gros mois qu'il n'avait pas joué. Donc il a besoin de rythme, il a besoin de tourner un peu les cannes pour revenir à niveau. Je pense qu'un Gouiri à son niveau, en tout cas... niveau qu'on l'avait connu notamment ici sur la fin de saison passée, oui, ça va aider. Ce sera un vrai recours. Ce sera normalement un vrai recours.
Mais il y a un décalage et les entrées là ont déséquilibré l'équipe totalement face à Montpellier. Une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre une image avec un commentaire, celui de François Rosy, qui n'est pas là mais qui est souvent dans le coin, sur une action qu'on a tous vue de Ludovic Blas qui marche face à son vis-à-vis et qui perd la balle. Le stade entier, qui était pourtant, on se serait cru au Molière, hein, plus qu'à un match de foot, tellement il n'y avait pas d'ambiance. Le stade a quand même réagi, mais pas autant que François Rosy. Regardez, écoutez.
Ludovic Blas qui va travailler face à Tejis Savanier, l'attitude de Ludovic Blas qui ne plaît pas au René, et voilà, il a perdu le ballon. N'importe quoi, Ludovic Blas ! Encore une entrée catastrophique de l'ancien Nantais, et Enzo Lefebvre là, qui va faire faute. Oh, Ludovic Blas, c'est pas possible, c'est fini, il faut arrêter. Hein. C'est incroyable de nonchalance, c'est quoi cette passe en retrait ? Trop molle, c'est interdit dans ce contexte-là de faire cette entrée. Franchement, l'attitude est déplorable de la part de Ludovic Blas.
Voilà, bon, il mâche pas ses mots, il est peut-être un petit peu violent, l'ami François, mais c'est vrai que tout le monde a un petit peu vu ça. Il a un problème à être dans dans l'équipe quand même.
Xavier, il faut lui laver la tête. C'est sûr que il y a un vrai problème de motivation, d'attitude, incompréhensible d'ailleurs. De toute façon, personne ne l'explique. Quand on pose la question, on dit si Ludo, ça va. Ça va pas pourtant.
Il vit mal le fait d'être sur le banc, c'est une évidence. Mais bon, en même temps, il est à Rennes, tout le respect qu'on peut avoir aux Nantais et puis aux Guingampais, il est à Rennes. C'est pas pareil. C'est quand même un niveau au-dessus. Il faut accepter aussi que parfois on joue pas tous les matchs. Il faut accepter qu'à Rennes on joue pas tous les matchs, même si on est bon. Que quand on rentre, on doit être performant. Il a du mal à accepter à faire cette transition-là. Et puis ça reste un joueur très intermittent en plus, de toute façon, à la base.
Il sera bon contre Milan.
Il faut espérer.
Ils sont tous bons contre Milan. Ce sera quasiment la meilleure prestation que vous verrez de la saison. Un match comme ça, ça se loupe pas individuellement comme collectivement. Il faut se montrer devant tout le monde.
Yildirim, Bertuc, vous en avez touché un mot. Je vous ai pas mis dans le résumé, mais je vous le montre maintenant. Ils sont face à face, à la 94e, face au gardien. C'est sifflé hors jeu, on ne sait pas pourquoi. La VAR serait revenue s'il y avait eu but, parce que si on regarde bien l'action, il n'est pas du tout hors jeu. Mais c'est un vrai raté. Il est tendre.
Il est un peu le symbole de ce qu'il y a offensivement sur le banc du Stade Rennais, c'est-à-dire qu'on a deux joueurs dont on ne doute pas du niveau, Gouiri et Blas, mais qui manquent pour l'un de rythme, pour l'autre de motivation, a priori. Et deux autres éléments qui sont Bertou Yildirim et Ibrahim Salah, dont on doute un peu de la qualité. C'est un peu ce qui interroge à la fin de ce mercato-là, c'est qu'il n'y a pas eu de... On comprend la logique, du Stade Rennais de ne pas avoir voulu bouger quantitativement cet effectif, parce que vous voulez doubler les postes, que vous voulez garder une cohérence de groupe et tout ça, à partir du moment où tous les postes sont doublés de toute façon.
Club amateur, vous avez un joueur moyen doublé par un joueur mauvais, et ça fait pas une bonne équipe.
Parfois, vous avez pas de joueur doublé. Ces joueurs-là ne semblent pas être vraiment au niveau de ce que peut apporter même un numéro 2 au Stade Rennais.
On le voit sur cette action, il sait pas ce qu'il faut faire, quoi faire de ses crayons. Quoi. C'est un joueur, il est très moyen, c'est pas un joueur de niveau Ligue 1. Enfin, je suis désolé.
Il est volontaire, moi j'aime bien ses entrées.
C'est bien d'être volontaire, mais c'est pas.
Il y en a qui sont pas volontaires, on vient d'en parler.
Ah oui, voilà. Non, mais oui, mais c'est.
C'est un peu juste aujourd'hui.
Quand on a l'ambition du Stade Rennais, les objectifs du Stade Rennais, on peut pas. Enfin, là, c'est du social, quoi, avec Salah et lui.
D'autant que contre Clermont, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme numéro 9. Regardez, les deux qui ne devaient pas prendre de jaune, enfin, il y en a plein qui ne devaient pas prendre de jaune, en ont pris. Il y a d'abord les cartons des attaquants. Kalimuendo, là, qui perd un ballon suite à un mauvais contrôle, qui fait la faute derrière pour récupérer le coup, qui est une faute dite intelligente, mais c'est parce qu'il avait perdu le ballon. Il prend un carton, donc il ne jouera pas contre Clermont. Et alors, Yildirim, qui est un peu méditerranéen dans son style, s'embrouille avec Savagnier, évidemment.
Il s'embrouille tout le temps.
C'est ridicule. Savagnier aussi, ça, regardez.
Par contre, c'est ridicule. Il sait qu'il est sous la menace. Bah. Il sait déjà qu'Alimoedo prend le jaune avant Yildirim, parce que l'un remplace l'autre. Donc il sait que finalement, sur le match d'après, il risque d'être titulaire. Bah, après, là, ils seront suspendus tous les deux.
Il joue à deux devant. Donc de toute façon, ça va être simple. Hein. Ça va être Goury Terrier et côté gauche, Désiré Doué. Après, encore une fois, dans ce schéma-là, il faut que les trois joueurs que j'ai cités ne soient pas blessés ou suspendus.
Ouais, c'est ça. Et donc ça c'est donc clairement, c'est-à-dire après le déplacement à Sochaux et après le déplacement au Havre. On va revoir le classement. On a 5 minutes pour parler des objectifs. Qu'est-ce que vous voyez comme objectif à Rennes là, qui est plutôt, allez, on peut dire que le maintien, on n'en parle plus.
Le maintien, on n'en parle plus.
La lutte pour le maintien.
Vous avez regardé Clermont, vous avez regardé Metz.
Ok.
Non, mais le maintien du monde, on n'en a jamais vraiment parlé.
Si, on en a parlé.
On n'en a jamais vraiment parlé.
On en a parlé à Clermont à la mi-temps, on se dit, Rennes va jouer le maintien.
Mais vous en parlez à chaque début de saison, de toute façon.
À Clermont, c'est le match de la bascule.
Ah oui, c'est le match de la bascule. Donc, on n'en parle plus. Ok.
C'est vrai qu'on en parlait du maintien.
Ça aurait été.
T'es 16e à 1-0, tu récupères 1-0, t'es 16e. Là, tu peux parler maintien. Mais là, depuis...
Vous n'avez jamais parlé, vous n'avez jamais pensé...
J'ai jamais pensé que Rennes était en danger pour se maintenir, non. Pour faire une saison très moyennasse, peut-être finir de 10-12e, mais...
D'accord.
Concernant les objectifs, on a vu ce week-end qu'il y avait un différentiel de discours entre Florian Maurice et Julien Stéphan. Florian Maurice qui a évoqué, pourquoi pas, si la dynamique continue, essayer d'aller chercher un top 5, un top 6. On voit qu'ils ne sont pas si loin que ça.
On regarde le classement encore.
Julien Stéphan a freiné les quatre fers en disant que clairement que c'était beaucoup trop tôt pour afficher cet objectif-là. Moi, je comprends la logique de Florian Maurice qui est dans la prospective pour le club. Il donne une ambition plus générale du club qui se doit pour un club comme Rennes d'essayer d'aller viser, de sauver les meubles en accrochant cette 6e place. Et je comprends Julien Stéphan qui sait que son groupe a été marqué par les objectifs trop hauts pour lui. Sur le début de saison, ça les a marqués mentalement. Il ne veut pas lui mettre cette pression-là. Donc voilà.
Alors on va écouter ce qu'a répondu Stéphane. Pour que Rennes soit 5e ou 6e, il va falloir faire une deuxième partie de saison de dingue. Écoutez.
Pour finir 5e ou 6e, je pense qu'il faudra, sur la deuxième partie de saison, finir à la 2e place. Si on veut finir 5e ou 6e à la fin du championnat, il faudra faire une deuxième partie de saison équivalent à une équipe qui fera la 2e place, qui terminera 2e sur une demi-saison. Voilà. Moi, je vous donne ces chiffres-là. Après, est-ce que c'est possible ou pas? Je ne suis pas devin, mais ça paraît quand même très ambitieux aujourd'hui, en tout cas début février, d'évoquer ça.
Ce n'est pas exactement le cas. J'ai fait les calculs. Je ne sais pas d'où il tient, ces calculs. Là, ils ont 28 points, les Rennais. J'ai regardé la dernière fois qu'il y avait un championnat à 18, donc il y a eu 5 saisons fin 90-2000. Il fallait au minimum, au maximum 53 points pour être 5e. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils prennent 18 points Attends, mon calcul n'est pas bon.
C'est dommage, je me disais pour une fois...
Ça partait bien.
Pour une fois, il a travaillé avant de venir à l'émission.
Il faudrait qu'ils prennent 25 points en 14 matchs, ça fait une moyenne de 1,7 points par match. Un deuxième du championnat ne tourne pas 1,7 points, il tourne à plus de 2 points par match. Donc c'est pas exactement vrai, il n'y a pas besoin de faire une demi-saison exceptionnelle.
C'est comme de dire que Gomis c'était le troisième gardien le plus décisif.
On saisit bien un peu la com de Stéphan là-dessus. Alors, en plus, il s'appuie aussi quand même sur ce qu'on lui a dit clairement quand il est arrivé. Il faut quand même le rappeler. Auprès d'actionnaires notamment, c'était tranquille. Bon, tu redresses l'équipe. Mais en gros, ce qu'il a dit exactement, texto, dans la conférence de presse. Alors, effectivement, ça part en décalage par rapport à ce que dit Maurice, qui lui est plus, on va dire, direct. Est-ce que pour autant, il faut en conclure que les deux sont pas d'accord sur les objectifs? Moi, je pense que on n'en est pas là. Parce que c'est juste, en fait, de la sémantique et de la différence de communication.
N'essayons pas de trouver des oppositions là où il n'y en a pas.
Là, sur ce cas-là, non.
De toute façon, ils ont tous les deux intérêt à aller dans le même sens. C'est un petit peu difficile à ce qu'ils tirent dans le même sens actuellement. Mais vous avez une erreur de com de Florian Maurice qui ne doit pas murmurer ça au micro de Prime, parce qu'il ne le dit pas texto comme ça et on lui arrache un peu de la bouche, mais il le dit quand même. Donc à partir de ce moment-là, ça s'emballe et nous, on pose la question derrière Julien
Stéphan. Voilà, okay.
Mais pour l'Europe, il faudra que des équipes devant calent, chutent, et on peut imaginer que Reims va freiner, que Rennes peut dépasser Reims. Marseille a tout de la bonne équipe qui va nous couver une petite crise. ça en fait deux. On se demandait si Brest allait pas caler. Ils sont quand même loin devant et eux ont plutôt la bonne tête de surprise de la saison. C'est ça le souci, c'est qu'il va falloir, t'as beau marquer des points, il faut que les autres devant calent. Parce que là maintenant, on a que des costauds. Quoi, et c'est ça le souci. Quoi.
Sauf que moi aujourd'hui, on me dit, tu termines 7e en Europa Conference League, je signe dès demain.
De toute façon, ça sera très bien. 5, 6, 7, ça sera parfait.
Vu la première partie de saison,
on peut arriver mieux.
Vu le niveau de Rennes en première partie de saison, au bout d'un moment, le foot est un peu logique, il faut de la continuité. Si l'équipe fait 6, ce sera une bonne saison par rapport à la première partie de saison. Ce sera une saison en échec, entre guillemets, par rapport aux objectifs affichés au départ. Mais ils auront quand même bien limité la casse s'ils arrivent à faire 6.
Le fautif est parti, donc Julien Séphan aura toute la gloire.
Il va, pour l'instant, en tout cas, opération parfaitement réussie pour Julien Séphan, on le disait là la semaine dernière. On va regarder les notes des joueurs après ce match. Alors oui, c'est pas une victoire inquiétante. Moyenne de 5,5. Voilà, parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des très hauts et il y a des très bas. C'est compliqué pour Benjamin Bourigeaud, qui est le seul en dessous de la moyenne. Et Guéry aussi, oui, mais Guéry n'ayant joué qu'une mi-temps. Hein, mais il rentre dedans aussi, comme Désiré Doué, qui a 6 pour la mi-temps qu'il a disputé, et surtout son début de match tout à fait... Je voulais vous montrer une image, celle de Omari, qu'on a souvent critiqué ici, et qui sauve à un moment son camp, là. Regardez sur cette percée. Alors là, vous vous rendez compte, là, le joueur, comment il met tout le monde mal. Et heureusement, Omari intervient devant Kazri. Omari qui termine avec une note de 5,5 parce qu'il a aussi fait une relance directement sur un adversaire comme il a l'habitude de le faire.
C'est un peu le symbole d'Omari, c'est que ce poste-là, il exige de la constance peut-être un peu plus que les autres postes et il est capable du meilleur comme du pire sur 90 minutes. Donc il revient plutôt bien, c'est encore loin d'être vraiment très très rassurant pour un axial droit dans une équipe comme celle du Stade Rennais.
Et puis autre chose que je voulais vous montrer, mais semaine après semaine on le fait, c'est montrer Terrier. La renaissance, enfin, on a retrouvé Terrier là.
Le duo devant, c'est quand même vraiment de plus en plus intéressant. Je trouve que les deux, même Kalimondo, je trouve qu'il fait un vrai gros match.
Ouais. Et l'association, le duo est intéressant, mais l'association avec Désiré Doué, moi sur le côté gauche, avec Terrier, je trouve ça aussi.
Ils ont le même sens du football et des passes.
Et puis il retrouve sa force dans la frappe de balle, il est de plus en plus solide, il retrouve sa vitesse. Non, c'est.
Un peu de réussite en plus, réussite, formidable. Ouais.
Début de raccourci, tout buteur, qui ne marquait pas.
Il va se faire des à ce rythme-là. C'est lui qui peut justement mener Rennes vers les hauteurs. Ouais.
Le fameux joker de cette année, c'est ça.
Oui, vous voulez recruter. Pourquoi on empile les joueurs quand on
est déjà tous au club.
On a déjà marqué.
Bah justement, on en parle du mercato. Le bilan définitif du mercato qui s'est achevé jeudi,
à 13h.
Le début des vacances de Guillaume.
Pendant la conférence de presse.
Voilà, à 13h15, c'était bouclé. Donc les départs, je résume. Jawab, Jacquet et Assignon, j'en oublie pas, qui part à Burnley.
Matic,
on a tellement parlé. Le problématique.
Oui.
Voilà. Arrivé, Alidou.
C'est
doux. Alidou, c'est doux. Et Matuziwa. Ouais. Aussi.
Donc Terrier.
Et donc Terrier, votre avis sur ce mercato?
Moi je le trouve incomplet parce qu'il y avait des faiblesses qui étaient identifiées, qui étaient recherchées en début de mercato, notamment évidemment le fameux défenseur central. Il n'y en a toujours pas. On ne l'a toujours pas à venir. Apparemment, ils ont essayé. Ils ont essuyé beaucoup de refus.
Pas David Dessé.
Ils ont eu des joueurs qui demandaient trop cher. Ils ont eu des joueurs aussi où il n'y avait pas consensus au niveau du club pour les prendre. Bon, voilà, ils vont continuer avec ces quatre-là. Il aurait fallu en exfiltrer un aussi pour en prendre un parce qu'ils ne veulent pas empiler les joueurs, comme on dit. Bon, je ne sais pas si l'équipe est plus forte aujourd'hui, mais... Par contre, ce qui était sûr, c'est que si Rennes devait se relever, c'était parce que l'équipe devait retrouver son niveau. C'était trop gros, le niveau qu'ils ont eu en première partie de saison. Donc, Florian Maurice, le club, Julien Stéphan peut-être un peu moins, mais fait confiance au groupe pour réussir à relever la tête avec leur qualité. C'est un pari risqué.
Et Julien Stéphan aussi.
Il aurait bien aimé en avoir.
Il a refusé beaucoup de défenseurs centraux aussi. Hein.
Ouais. Parce que c'est ça que nous a dit le président un peu après le match l'autre jour. Il y avait plein de noms. Il y avait une dizaine de défenseurs centraux qui ont été sollicités, notamment Nelson de Galatasaray, qui a marqué avec Galatasaray. Ça avait l'air d'être très chaud. Et puis, soit les joueurs ne veulent pas venir, soit ils demandent des prix et des salaires extraordinaires, soit, entre Julien Stéphan et Florian Maurice, on n'est pas d'accord. en disant ou l'un ou l'autre que les joueurs ne vont pas apporter un plus.
Il au pluriel, se pose la question de savoir si X profil, notamment Nelson, notamment Jim City, on peut en citer, franchement, il y en a 5 ou 6, étrangers tous. Donc, est-ce qu'ils peuvent s'adapter rapidement au Stade Rennais en l'espace de pas longtemps ? En fait, ils sont encore une fois, je dis pas que c'était la bonne, voilà.
Non,
c'est en tout cas ce qu'ils se sont posés comme question. Est-ce que ces joueurs-là sont vraiment plus par rapport à ce que vous avez ? Est-ce qu'ils sont en capacité de s'adapter très vite ? Et est-ce que aussi on peut se faire sortir entre guillemets Omari et Wu ou Omari ou Wu, voilà, dans des bonnes conditions ? Est-ce que le joueur est OK ? Parce que le joueur, il va pas aussi dire. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors encore une fois, on explique des paramètres internes, des réflexions qui existent. Est-ce que ce sont les bons choix ? Là, l'avenir le dira. Et là, effectivement, on peut avoir un doute.
La question très naïve que je me pose, c'est comment les priorités affichées par tout le monde à la mi-décembre, coach, directeur sportif, président, supporter, comment ces priorités que tout le monde avait vues mi-décembre peuvent devenir des non-sujets fin janvier ?
Ah, ça n'a jamais été un non, c'était pas un non-sujet.
C'est pas un non-sujet puisqu'ils y sont jusqu'à là.
Est-ce qu'on a parlé d'attaquants, de percussions, de nouveaux Doku ? Non, on n'a plus besoin. C'est très étonnant quand même.
Ah, parce que la dynamique a changé.
Mais est-ce que c'est pas du court-termisme ça
c'est un risque.
Ça se passe tellement bien avec des adversaires tellement prestigieux qu'on a battus qu'il ne faut pas changer.
Il y a une volonté aussi d'assumer les choix qui ont été faits cet été. On peut peut-être pas, peut-être qu'on ne peut pas leur en vouloir qu'ils assument leurs choix dans un monde du foot où des clubs sont capables d'acheter 6 joueurs, d'avoir des effectifs de 35 pros, des effectifs qui ne peuvent pas bosser ensemble.
C'est vrai.
À Rennes, ils font le choix. Alors évidemment, s'ils se cassent la figure en fin de saison, on leur tirera dessus, évidemment. Ils ont fait ce choix-là. Moi, je pense quand même que le défenseur central, il y a un sujet parce qu'il y a un problème de niveau global. Je pense que je vois pas pourquoi il y aurait pas des bourdes d'ici la fin de la saison comme on a pu en voir. Pourquoi les lacunes ne reviendraient pas après pour le milieu et l'attaque, moi je suis un peu moins inquiet.
D'accord.
Pour les titulaires, je parle.
Ouais, c'est très clair.
Ils avaient un problème sur le fair play financier aussi, clairement sur la masse salariale. Malgré l'exfiltration de Matic qui a fait des belles économies, ils étaient au taquet de chez taquet déjà sur la masse salariale par rapport au fair play financier. Et évidemment, les cibles prioritaires qu'ils voulaient en défense centrale coûtaient très 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 cher. Avec notamment, pour le cas de Chancel Mbemba, que nous on a cité à Ouest France, qui est une vraie piste, qui a été écartée, notamment et surtout pour cette raison-là, parce qu'à Marseille, c'est 400 000 euros par mois en comptant l'impatriation. Ça veut dire que s'il arrive à Rennes, vous enlevez l'impatriation. Oui. Ça vous coûte un bras énormissime, ce que évidemment on ne peut pas
faire.
Jamais
ce joueur ne vaut ce prix-là.
Non, il vaut pas ce prix-là.
On ne sait même pas qu'il l'envisage en fait. C'est ce joueur-là. Il était chaud pour venir. Même là, j'ai pas l'information.
Si on lui allonge 3 ans et demi de contrat plus le salaire qu'il réclame,
il quitte Marseille. Il est titulaire à Marseille. Il quitte Marseille pour venir à Rennes. Il y a des profils. Je comprends même pas qu'on les tente.
Quand on voit que Maripane, son entourage demande 4 millions là où il est payé 3 millions à Monaco, on se dit que les gars.
Mais là, c'est le profil aussi, hein, Maripane. Ils l'ont écarté, pas que seulement pour le salaire, pour le profil aussi qu'ils ont considéré que c'était trop lent.
Ouais.
Puis ça fait longtemps que le projet sportif dans le football, c'est plus la priorité, quoi. Tous les clubs, je veux dire, j'épargne pas non plus les joueurs du Stade Rennais. Il y a un moment, regardez le mercato de Lyon. C'est quoi le projet sportif à court terme de Lyon ? Qu'est-ce que un mec comme Saïd Benrahma, par exemple, en projet sportif peut y aller? Il n'y a pas que ça qui entre en ligne de compte pour un joueur, c'est sûr. C'est la réalité du foot aujourd'hui.
Alors, est-ce que les uns les autres, on n'est pas trop, on n'est pas trop injuste envers Florian Maurice? On n'entend pique que pendre sur le directeur sportif.
Lui dit qu'un mercato c'est fait pour se renforcer. Est-ce qu'on s'est renforcé? On a numériquement remplacé Matic par Matuziwa. Et comment Ali Doucedou numériquement remplace Assignon qui est parti? Alors c'était dans la chronologie, c'était
c'est assez. On va les voir d'ailleurs ces deux joueurs.
Mais finalement,
la présentation.
Est-ce qu'on s'est renforcé? Je dis pas que les deux recrues sont pas des ressemble à des bonnes pioches quand même. Mais est-ce qu'on s'est renforcé par rapport à la volonté de départ d'une recrue par ligne, notamment de ce défenseur central, mais aussi devant, vous parliez soit d'un ailier percutant, soit d'un avant-centre. C'est aussi la direction du club qui a parlé de ça, et ils ne le font pas au bout du compte. Donc évidemment, ils ont essayé, évidemment, ils ont été mis en échec. Évidemment, il y a le fair play financier, il y a la prime Pinot qui a pris des proportions encore plus importantes. Mais malheureusement, malheureusement, c'est pas un bon mercato, je trouve, au final. Quoi. Enfin, c'est pas un mercato pleinement réussi. Alors, bah, les résultats
l'avenir va, évidemment, va nous le dire.
Le mercato se juge effectivement après.
Voilà. Bah, on se fait juger nous-mêmes.
On va regarder quelques tweets quand même liés à ce qui s'est passé ces dernières heures. Voici les tweets. Voilà. Combien de défenseurs centraux d'expérience a recruté Florian Maurice sur les 4 derniers mercato du SRFC ? 0. Voilà. Johan B. Alors après, on a des choses qui bougent. Non, pas là. Pourquoi ce beurre n'est pas bon ? Parce que c'est idou. C'est mignon.
C'est mignon.
C'est votre cam, ça.
Ouais, j'aime bien. Les choses, je suis très beurre, ces temps-ci.
Oui, bah oui.
Voilà. Alex Carlo Bertoug, il travaille les face à face à l'entraînement. Hein ? Voilà. Et puis voilà, il ne peut pas s'empêcher de passer une petite tête à chaque fois. Regardez dans le fond, c'était la semaine dernière, derrière Guillaume, il y avait François Rosy qui était là, qui nous espionnait. Alors on se tourne, mais non, il n'est pas là, il n'est pas là cette semaine. Lundi, c'est Rosy et il doit préparer son émission. Lundi, c'est Rosy et mardi, c'est Sochaux. Avant de parler donc de la Coupe de France, un mot de la Gambardella, vous y étiez hier, certains d'entre vous en tout cas. Vous, j'en suis sûr, Thomas.
Oui, oui, oui. Victoire du Stade Rennais contre Guingamp dans le derby.
Décidément, Guingamp cette année.
Décidément, voilà. En coupe, en tout cas, ça passe. Non, une belle victoire des Rennais qui sont opposés plutôt logiquement, qui étaient supérieurs aux adversaires. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Tirage au sort jeudi soir.
Avec une pépite, alors là.
Oui, un joueur qui a fait un très bon match, Amadou Diallo, qui s'est pas mal distingué, qui a mis un but, qui a été assez remuant sur le. Sur le terrain.
Qui, oui, mais qui a quel poste
pour qui les... joue ailier, qui jouait ailier droit. Là.
Ailier droit.
Le nouveau Dembélé, quoi.
Le nouveau Dembélé, il ne faut pas s'emballer non plus. Mais...
Un joueur de percussion, là où on en manque sérieusement, c'est ça que vous nous dites.
Il est super jeune.
Il a 17 ans,
mais. Il est super jeune, il est encore. Aussi. Il n'est pas encore absolument en pleine position de ses moyens physiquement, je pense. Mais c'est intéressant, c'était un bon joueur qui a connu un super match. Il y avait quelques 2000 personnes, je crois. Ça affichait complet à la Piverdière et c'était un chouette dimanche.
Bon, et bien tant mieux pour les jeunes du Stade Rennais, de l'Académie. Rennes demain à Sochaux contre une équipe de National qui jouait vendredi. Je vais vous montrer des images de Sochaux qui recevait le Red Star, le leader. Il y a eu 4 buts et 4 buts inscrits de la tête. Regardez. Voilà, Sochaux ouvre le score.
C'est pas des trucs qu'on voit trop à Rennes, ça.
Non, mais regardez, c'est très bien vu, c'est très travaillé. Voilà, on n'a pas l'impression d'être en National, là, mesdames, messieurs.
Bah, c'est le haut de tableau.
C'est le haut de tableau, mais c'est surtout un beau stade, c'est une belle pelouse. 2-0, on s'achemine vers un succès. Je vous le remontre, hein, ça ne fait pas 3-0, c'est le ralenti, ça se... un autre angle. Hein. Et puis, ça va un petit peu se déglinguer en deuxième mi-temps. 2-1 pour le Red Star qui revient, troisième but de la tête. Et je vous remontre encore le ralenti.
Oui, remontez-le.
Bah, le gardien n'est pas...
vous avez les droits là-dessus.
C'est pas Samba, je n'en ai même pas. Mais... Et puis alors, voilà, à la 94e, hop, oui, voilà, le choc. Ça. Le choc, le froid dans Bonal. c'est souvent le cas.
Là, et,
qu'est-ce qu'on sait de cette équipe de Sochaux ?
Okay. Eh bien, qu'elle joue bien, elle est très bien entraînée par quelqu'un qu'on connaît bien en Ille-et-Vilaine, Oswald Tanchot.
Très bonne votre interview d'Oswald Tanchot dans West France
c'est
aujourd'hui.
C'est gentil, Vincent.
Ouais.
non, mais c'est quelqu'un de bien, Tanchot. Il parle bien football, il parle bien de sa situation à Sochaux. C'est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de mérite à rester au moment où le club était deux pieds sous terre cet été. Il a fait une prépa avec des U17 et des U19, mais... voilà, après, c'est quelqu'un qui prône beaucoup de jeux, qui aime le jeu. Donc,
méfiance.
Attends, après, comme il dit...
ils ont quand même battu Lorient et Reims.
Ouais, voilà. Alors, il dit oui, mais l'effet de surprise, justement, d'avoir battu deux Ligue 1 n'existera plus.
Oui, mais jamais 203. Et,
bah, ou peut-être, verra-t-on. Ouais. Et puis, pour Rennes, c'est aussi, comme vous disiez, belle pelouse à Bonal. Donc, pour le jeu rennais, aucun souci, ce ne sera pas un champ.
Ah, et puis, jeu soyeux.
Jeu soyeux, voilà. Et puis, bon, en revanche, il y aura 20 000 personnes, il y aura une belle ambiance.
Ouais, ouais, c'est... C'est effectivement, on va pas jouer sur un champ de patates et contre une équipe alors qui est un peu miraculée. Hein, donc, et puis il y a deux niveaux d'écart.
Oui, voilà, faut quand même trancher avec ça. Il y a quand même deux divisions d'écart, c'est pas pour rien. Et il y a un moment de la victoire, elle est obligatoire pour le Stade Rennais. Ce serait un échec de se faire éliminer là-bas avant même de parler. Enfin voilà, c'est une belle équipe, Sochaux.
Mais la victoire pour le Stade Rennais, elle est nécessaire et obligatoire. Il y a deux anciens Rennais qui jouent là-bas aussi, à Sochaux.
Ah oui ?
Ouais, il y a le jeune Gomis qui était blessé contre le Rexstar.
Pas le gardien,
non,
2004.
Non,
dommage.
qui a quitté le Stade Rennais cet été. Et Diego Michel qui a été formé ici sans jamais passer pro ici. Ouais. Il a joué à TA, ouais. Il est de Château-Giron. Il a joué à Versailles au Red Star et maintenant à Sochaux.
Ah ouais,
ouais.
Non, mais dans le processus de remise en, on va dire, remise en condition des Rennais depuis le mois de janvier, il n'y a pas assez de certitude encore dans cette équipe sur le fond pour se permettre effectivement de se foirer à Sochaux. Parce que forcément, ça remettrait la confiance en dessous. Et avant d'aller au Havre, qui sera un match très important aussi pour continuer à enchaîner en Ligue 1, sachant que le calendrier est quand même assez favorable, on va dire, sur le papier là, avant Paris. Il n'y a pas, comme dit Thomas, il n'y a pas de droit à l'erreur demain.
Alors, ça remonte à loin, les derniers Sochaux-Rennes. Hein. La saison 2013-2014, on a récupéré les images, on a les droits. Donc, c'était Montagnier. c'était Montagnier qui était entraîneur. Il y avait encore des ballons rouges, vous vous souvenez ?
Oui, ça, c'était le vrai.
Voilà. Plaisir. Et donc, un pénalty, évidemment, pour Sochaux. Sochaux joue en Ligue 1 à ce moment-là. Hein. Il y a Romain Danzé hein, qui est là. C'est pas lui qui fait la faute, hein, c'est Canabic, je crois bien.
Oui, c'est lui-même.
Et derrière, alors que Costil part du bon côté, ça fait 1-0 pour Sochaux. Bakambou, Cédric Bakambou.
Qui a bien évolué depuis. Hein.
Ah bon ? Il est où maintenant ?
Non, bien. Il est désormais en
Espagne.
Il est en Turquie, moi, je crois.
Ah oui.
J'ai un doute,
oui,
mais belle carrière, Cédric Bakambou quand même.
Voilà, donc ça s'était moyennement passé. Il y avait Alessandrini, vous en souvenez, Alessandrini. À chaque fois qu'il tirait, il marquait. Voilà, bon, voilà, quelques. Regardez l'erreur du gardien.
C'est l'erreur des actions qui mérite d'être vue.
Voilà, mais si, ah si, celle-là, si, je vous la remontre. Regardez le gardien.
Vous avez une cassette en fait à passer quoi.
Un peu là. Voilà, mais regardez.
La trouvaille dans les bureaux de TVR.
Mais on ne jette rien, monsieur.
Oui.
Et donc ça fait plaisir à plein de gens de revoir des vieux Sochaux-Rennes.
Ouais. Bah oui, il y a plein de gens.
Est-ce que là les postes étaient doublés à cette époque-là ?
Ah bah au triplé même, parce qu'on n'empilait pas les joueurs. Oui. Voilà. Et donc ça s'était passé comme ça. Je vous en mets long.
Ah oui, hein, ça s'arrête pas en fait.
Ça continue. On va arrêter la cassette VHS pour envoyer mon match devant
nous. Regardez bien, est-ce qu'il y aura du turnover à Rennes ?
Oui, il y en aura un peu, c'est forcé. Dans le bloc, comme dit.
J'ai dû rater mon montage.
Ouais, le montage est bien raté.
Je pensais que c'était beaucoup plus court.
Julien Stéphane a dit qu'il n'y aurait pas 5-6 changements qui ne changeraient pas la moitié de l'équipe.
Mais on peut penser à quoi ?
Je pense que Ludovic Blas, il faut le relancer. Rennes va avoir besoin de lui sur la fin de saison s'il ne joue pas un match de Coupe de France.
Ça, là aussi.
Je suis moins sûr. Mais Matuziwa, Seydou.
Oui, il faut lancer les recrues.
Bah, les recrues, oui. Ça, surtout si Santa Maria avait fini un peu sur la jante samedi. C'est le moment de lancer Matuziwa, c'est clair.
Matuziwa, c'est sûr. Après, Seydou, il faut voir. Parce que Seydou est arrivé un petit peu physiquement, on va dire, pas à 100%. Alors, est-ce que ça va l'aider justement de jouer directement ? Ou est-ce qu'il faut plutôt le faire rentrer en cours de jeu ?
D'accord, on va voir.
Il a peut-être qu'une mi-temps dans les jambes. Quoi.
Et Gouiri peut-être ?
Oui, Gouiri aussi.
Faire souffler un gars devant, Kalimundo.
Ouais, il y a moyen de.
Sauf que Kalimundo est suspendu après Wave, donc
Christopher Roux aussi doit avoir. Donc attention, pas trop de turnover, nous a dit quand même le coach. Mais.
Un par ligne peut-être.
Mais ça serait pas mal, ouais. Et puis surtout de ne pas, pas être éliminé, parce que alors là,
le gardien c'est obligatoire. Coupe de France, donc c'est Gauthier Gallon.
Ça, c'est obligatoire. Et si Rennes passe, Rennes n'est plus qu'à deux matchs de la finale.
Et oui,
ça devient intéressant à partir des demi.
Oui, c'est ce que nous a dit l'entraîneur.
Ce que je trouve fou, mais parce que s'ils passent, ils sont quand même en quart, ils sont à trois matchs, enfin à deux matchs d'une finale, une qualif en Coupe d'Europe, mais à partir des demi, à la 80e, si on mène, allez, c'est bon, on peut essayer de la gagner.
Oui, bah, enfin, ça, c'est des propos de convenu. Bah,
propos un peu convenus. On regarde les pronos et on fait les pronos. Alors les pronos, Thomas Assouli toujours en tête, Laurent Frétinier toujours sur le podium. Guillaume Lenné, c'est vrai qu'il est un peu dans les profondeurs, mais il marque à chaque à chaque match.
Marque,
et puis Xavier Grimaud, c'est un peu comme le Stade Rennais, pas loin de l'Europe.
J'ai longtemps eu 4 points samedi.
Bah oui, mais beaucoup de gens avaient 4 points samedi. Beaucoup de monde a mis 2-0. Allez, alors très rapidement, sachant qu'il n'y a pas de prolongation demain, hein. On va directement au tir au but. C'est bien aussi cette formule. Laurent, vous voyez quoi ? Ah, j'ai commencé par le leader. Je vois qui. Le leader, c'est lui. C'est Thomas Rassouli.
3-1 pour Rennes.
1-3. Bon, alors j'avais marqué la même chose.
Bah, moi j'allais dire pareil.
Oui, vous aussi, mais vous pouvez dire la même chose.
Allez-y, empilez-vous sur mon prono, il n'y a pas de problème.
Moi, l'intérêt, c'est de jouer un coup pour rattraper.
Ok, mais ouais, mais si vraiment vous y croyez.
Non, bah 2-0. Mais c'est vrai que j'ai du mal à croire au clean sheet. Mais même à ce
0-2. Xavier ?
Je vais dire 0-1.
0-1. Donc tout le monde voit Rennes se qualifier. Guillaume ?
Oui, 0-2.
0-2 aussi. Très bien. On se retrouvera donc ici mercredi.
Ah bon ?
Pour débriefer ce match. Après-demain, un 25 minutes spécial Sochaux-Rennes. D'ici là, messieurs, merci beaucoup. Portez-vous bien.
Vous aussi.
Ce sera le cas. Et surtout,
soignez-vous, Vincent.
Allez, Rennes.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.